Bonjour.
Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à l'émission Kiosque Magazine. Nous sommes de retour après 2 semaines de pause et on revient en force en plus et on avait tellement hâte qu'on précède même le thème de l'émission, que je précède le thème de l'émission. Alors, je vous dis bonjour à Christine et à Louise. Et
bonjour, Daniel.
Bonjour, Daniel.
Et bien, c'est Daniel qui est en onde avec vous aussi. Alors, il y a les festivals depuis ce temps-là. Il y a les festivals, plein de festivals. Il y a aussi, peut-être dans votre coin ici à Montréal, il y a la pluie, la chaleur dans quelques jours et la couleur, les couleurs des fleurs, mais on a aussi plusieurs sujets, en faire moins et vivre plus, entre autres. Louise va nous amener du côté terre et Christine du côté mer, et on parlera d'alimentation, les mots à ne pas dire, et on va tout savoir sur le tofu. Et au cours de l'émission, on vous réserve une petite surprise parce que Louise, elle a un sujet plutôt inusité.
Un petit peu osé.
En tout cas, on va voir les réactions. Alors, c'est parti avec Louise qui nous amène déjà du côté terre.
Alors, bonjour à tous. Avec ce merveilleux soleil, il va faire chaud aujourd'hui. On va parler de la terre. C'est un article qui a été publié par Fabienne Couturier dans la Presse Plus du 1er juillet et qui raconte l'histoire d'un couple belge qui a décidé de vivre de la terre québécoise. Donc, quand on quitte la route 132 pour se rendre chez Gérard Matar et Catherine Jacob, non loin de Gaspé, on se demande bien ce qui a pu pousser ces deux Belges à venir s'enterrer dans ce coin de Gaspésie. Même pas au bord de la mer. Le chemin forestier qu'on emprunte semble ne mêler nulle part. Aucune enseigne ne signale leur entreprise, Gaspésie sauvage, non plus que leur gîte, la Comptonie voyageuse. Ah oui, là, à peine visible, un petit logo, terroir et saveur du Québec, cloué comme à regret sur un cabanon à demi dissimulé par de jeunes épinettes au bord du chemin. Arrivés au Québec il y a 10 ans, ils ont d'abord passé 3 ou 4 ans dans la vallée de la Matapédia avant de s'installer ici, à Douglastown, sur une terre qu'ils ont soigneusement choisie. Boisée, sans voisins proches, quand même pas trop loin de la civilisation, assez grande pour y mener à bien leur projet. Leur projet? Vivre aussi près que possible de la nature et élever leurs 3 garçons, 17, 15 et 11 ans, conformément à leurs valeurs. Simplicité volontaire, autosuffisance, conscience écologique, ces mots à la mode, galvaudés même, ils les avaient déjà dans la tête avant de quitter la Belgique, où ils les mettaient en pratique autant que possible. Mais ici, leur rêve a vraiment pu prendre forme. En 7 ans seulement, ils ont déchiffré leur terre à la sueur de leur front, construit leur maison de leurs mains avec le bois qu'ils avaient coupé, bâti une étable et un bâtiment qui abrite leur atelier, aménagé un potager. Un garde-manger vivant. La maison, magnifique, chaleureuse, aérée, respire l'harmonie. L'étable, toute propette, abrite une gigantesque truie noire qui vient de mettre bas. Dehors, le Vera, encore plus imposant que sa dame, prend un bain de soleil et Rio, le taureau Island, nous regarde placidement à travers son toupet. Il est le papa d'Églantine, une belle vache tachetée qu'il a fabriquée avec caramel, une jersey aux yeux de velours. Un nombre indéterminé de poules couraille dans le clos, des lapins palpitent dans le clapier. 2 énormes chiens veillent à ce que les coyotes et les renards restent à bonne distance de ce garde-manger vivant. Car c'est de cela qu'il s'agit. Gérard, Catherine et leurs 3 enfants vivent essentiellement de ce que leur donnent les animaux et la terre. Ils font leur beurre et leur fromage, thom, cheddar, camembert, ricotta, mozzarella, selon la saison. Ils fabriquent des saucissons secs, des pâtés, des terrines. Ils congèlent, ils font des conserves en prévision de l'hiver, récoltent le miel de leurs abeilles. Ça vous occupe son monde. J'aurais de la misère. La belle saison sert juste à préparer la mauvaise, dit Catherine avec un petit rire. Au sous-sol de la maison se trouvent les réserves. Dans une pièce, les bocaux de confiture, de marinade et de conserves diverses s'étagent du plancher au plafond. Dans une autre, plusieurs meules de fromage vieillissent dans la chambre d'affinage. Ceux-là, ce sont les enfants qui les ont faits. Ils participent à toutes les tâches, dans la mesure de leur capacité. Ils font aussi le pain, chacun son tour. Ils ne rouspètent jamais? Si, bien sûr, comme tous les enfants, mais ils finissent toujours par le faire. Il ne faut pas croire que les garçons sont élevés en vase clos, coupés du monde. Ils vont à l'école en ville, ils ont un ordinateur. On a mis une limite au temps qu'ils peuvent y passer, mais en fin de compte, ils s'autorégulent, on n'a jamais besoin d'intervenir. En fait, on ne contrôle pas tant que ça, dit Catherine en riant. Pour les denrées qu'ils ne peuvent produire, Gérard et Catherine recourent au troc. Ils échangent, par exemple, des fromages contre du poisson frais, hébergent un ami cordonnier qui, en retour, fabrique les chaussures de la famille avec le cuir que Gérard tanne lui-même. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment vivent-ils? C'est quoi leur revenu? Alors, bien sûr, il faut tout de même que de l'argent pour vivre, on n'y échappe pas. C'est là qu'intervient Gaspésie Sauvage, l'entreprise que Gérard et Catherine ont créée. Essentiellement, ils transforment, conditionnent et emballent des produits sauvages, baies, champignons frais ou séchés, algues, herbes comestibles ou aromatiques, graines qu'ils cueillent eux-mêmes ou qu'ils font cueillir par des gens qu'ils ont formés. Catherine, qui est graphiste de métier, a conçu les emballages, joli comme tout. Leur atelier, étincelant de propreté inoxydable, est en fait une cuisine-laboratoire, où ils font sécher les herbes et les champignons, préparent des confitures de fruits sauvages, élaborent d'étonnants mélanges d'épices indigènes. Ils ont pour clients une trentaine de restaurants du Québec et de l'Ontario, parmi lesquels des tables aussi réputées que Toqué et Sous-Bois à Montréal, ou Initial et Panache à Québec. On peut aussi se procurer leurs produits en ligne sur le site de Gaspésie Sauvage ou dans les épiceries fines un peu partout au Québec. Mais comment, du fond de leur coin de forêt, ont-ils réussi à gagner une telle clientèle? J'ai passé quelques jours à Montréal pour remettre des échantillons aux épiciers, aux traiteurs, etc. J'ai aussi envoyé des colis de frais au resto pour qu'ils voient notre travail. Le bouche à oreille a fait le reste, Gérard Matard. Quand on habite à ce point la campagne nous habite. La ville pour Gérard, qu'on imagine aussi à l'aise à Montréal qu'un chevreuil sur l'autoroute métropolitaine, un mal nécessaire auquel il ne s'expose qu'une fois l'an pour rencontrer ses clients, proposer de nouveaux produits. Cela va sans dire, Catherine et Gérard sont occupés du matin au soir, tous les jours que le bon Dieu fait. Pas de congés, pas de vacances, pas de répit. Mais comment font-ils? C'est la vie que nous avons choisie, répondent-ils dans un haussement d'épaule. Pour nous, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Parmi les produits de Gaspésie Sauvage, on trouve des poudres de champignons, russule, lactaire, chanterelle, bolet, à utiliser dans les sauces, les risottos, les soupes ou les salades, des infusions, thé du Labrador, menthe sauvage, cèdre, chaga, sapin baumier, des marinades, des gelées et des confitures. Il y a aussi des mélanges d'épices, rubs, conçus pour assaisonner les viandes rouges, la volaille, le poisson ou les légumes. Il y a même un mélange d'épices à dessert qui sent la vanille. Le site de l'entreprise propose une belle collection de recettes à réaliser avec ses produits, plus étonnants les uns que les autres. Des heures de découverte en perspective. Les produits Gaspésie Sauvage sont en vente notamment au marché des saveurs de Montréal et de Gaspé, chez Moisan à Québec et en ligne sur le site du Terroir Québec.
Avec l'été, en faire moins et vivre plus, c'est le biais de Louise Gendron qui est apparu là, en Châtelaine, juillet 2014. C'est encore d'actualité, on dit toujours, je l'attendais à la radio cette semaine, en faire moins justement et vivre plus. Alors le boulot, la maison, la marmaille, la popote, l'agenda qui déborde, les listes de choses à faire, la vie, ça ne peut pas n'être que ça. La paresse est la mère de l'invention. L'humanité a inventé la roue parce qu'elle en avait marre de tout traîner à bout de bras. Et la machine à laver parce que, vraiment, battre ses draps avec une pierre sur le bord de la rivière, c'est un peu fatigant. Surtout que, soyons franches, les risques de sombrer dans l'enfer de l'oisiveté sont bien minces. Il faut gagner des sous, faire l'épicerie et le ménage, aller conduire les enfants au cours de piano ou à l'entraînement de soccer, entretenir son réseau social, se garder en forme et... en santé. Un Canadien sur trois manque de temps et souffre de stress, dit Statistique Canada. Les championnes, toutes catégories, sont les travailleuses qui ont des enfants de moins de 4 ans. Alors, 6 sur 10 se disent débordées. Et comme si ce n'était pas suffisant, on s'en rajoute une couche. On décide de recevoir à l'Indienne ou à la Thaïlandaise, on s'impose une garde-robe à la mode, une maison impeccable et des ongles manucurés. Un demi-marathon avec ça? Pourquoi on fait ça? Parce que plus que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité, on vit dans un tourbillon d'informations, de tâches à accomplir, de sollicitations, de possibilités, répond Léo Baboteau, auteur de L'art d'aller à l'essentiel. Peut-être aussi parce que dans la société contemporaine, on est reconnu pour ce que l'on fait, pas pour ce que l'on est. Alors, on en fait toujours plus pour se prouver qu'on est productif et important, pour se sentir vivre, pour être heureux. Et si on avait tout faux, si le mieux se cachait dans le moins plutôt que dans le plus? Hélène St. James en est convaincue. Elle est agente immobilière à succès dans une grande ville américaine. Elle travaillait 12 heures par jour pour payer sa maison cossue et son gros train de vie. Passait 3 heures par jour coincée dans les bouchons et s'imposait une tonne de buts, d'objectifs et de défis. Par exemple, apprendre l'italien, faire du chant classique, courir des 10 kilomètres. Elle en a eu assez et a décidé de simplifier sa vie pour mieux en profiter. Alors, elle s'est mise à épurer ses armoires, son carnet d'adresses et son emploi du temps. Elle a réduit ses activités et ses exigences. Adieu les repas compliqués les soirs de semaine, la recherche de chaussures qui s'harmonisent à son nouveau tailleur. Bonjour les soirées relax avec son mari et les fins de semaine de farniente en famille. J'essaie tellement, soupire Mélanie Pratt, digne représentante du club des jeunes mamans travailleuses débordées. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Son exemple classique, le souper d'amis. « Je me promets de faire ça simple, dit-elle, question de profiter de la présence de mes invités sans avoir la langue à terre. Puis, je choisis mes recettes. Plusieurs. Compliquées. Pleines d'ingrédients fancy. Et c'est mon chum qui me ramène à la réalité en me disant « Pourquoi pas 3 services, chérie, au lieu de 5? » L'ennemi qu'elle dit, Mélanie, c'est à la fois la peur du jugement des autres et les exigences qu'on s'impose. Celle de la maman qui doit servir des repas nourrissants, coûte que coûte, par exemple. Parfois, vraiment pas souvent, je réussis à faire un souper de grilled cheese, et Dieu sait que c'est bon, qu'on mange devant la télé. Tout le monde est relax, les enfants sont ravis, et puis moi, Mélanie, je passe la soirée à tenter de ne pas culpabiliser. De son côté, Hélène St. James, elle, est devenue une papesse de la simplification qu'elle prêche dans de nombreux livres et dans son blog. Elle envoie 2 suspects au banc des accusés pour nos vies encombrées. 1. La folie de la consommation. Les objets sont des voleurs de temps. Celui qu'il faut pour gagner l'argent nécessaire à leur achat, pour les trouver, puis pour les entretenir. 2e accusé. L'incapacité à dire non, on doit se reconnaître ici. Non à l'invitation dont on se passerait bien, au comité qui bouffe la vie, aux réunions qui grugent le rendement au travail, aux exigences qu'on se fixe soi-même. Les défis, Léo Baboteau connaît. Pendant des années, il a carburé au livre sur la productivité et l'organisation du temps. Il a tout lu et suivi tous les préceptes, s'assignant des buts et des objectifs intermédiaires des échéanciers. Bien sûr que ça fonctionne, comme il affirme. Il a cessé de fumer, il a perdu du poids, s'est levé de son canapé pour participer à des triathlons, il a écrit des livres, toutes des bonnes choses. Mais ces victoires ont un revers. Se fixer un but, dit-il, implique qu'on ne sera heureux que quand on aura perdu 10 kilos ou couru 10 kilomètres. C'est remettre toujours la satisfaction ou le bonheur à plus tard. « Je ne veux plus faire ça », qu'il dit. Là, lui aussi a décidé de changer sa vie, et c'est là qu'il a écrit de l'art d'aller à l'essentiel et créé un blog considéré par le magazine Time comme un incontournable. D'ailleurs, je l'ai visité, et c'est en français le site Habitude Zen que vous pourrez visiter. Le cœur de son message, c'est réfléchir à ce qu'on veut vraiment et éliminer tout ce qui dépasse. Ne rien faire, bien sûr que non, mais faire les choses qui nous rendent heureux maintenant, qui nous excitent aujourd'hui. A-t-on vraiment besoin de buts, de défis, d'objectifs? Ne pourrait-on pas juste vivre parfois?
quand ça m'apprend, de temps en temps, été, automne, hiver, printemps, je ne fais rien, rien ne me tente. Je ne suis pas feignante, je suis farniente. Je travaille pas, je cuisine pas, je ne range pas, je ne lis pas. Je fais niente, je suis absente. Je suis pas feignante, je suis farniente. Je me transvale, je me moquette, je me fauteuille ou je me couette sur un sofa, l'effort en crève. Je me coussine et je me rêve. Comme je l'ai dit dans une formule, en m'étirant, je coince la bulle. Je ne fais rien, rien ne me tente. Je suis pas feignante. Des trucs, moi rien ne me tente, je suis pas feignante, je suis farniente, je le travaille pas, je le cuisine pas, il me dérange pas, je ne le vois pas, je fais niente, je suis absente, je suis pas feignante.
Christine au micro avec un article à l'École de la mer. Après cette pause avec Charlotte Rampling, je suis farniente, on embarque. On embarque donc avec cet article paru dans Châtelaine de juin 2015. Sur le Saint-Laurent file un grand voilier propulsé par une idée audacieuse, changer la vie de jeunes de 15 à 25 ans en leur apprenant les bases de la navigation. Bienvenue à bord du bateau École d'Écomarie, un organisme qui est à vocation environnementale qui organise des expéditions pour aider les décrocheurs à développer leur estime de soi. Alors avant d'embarquer, alors déjà juste vous dire que j'espère que je vais pouvoir surfer sur les vagues puisque je reviens d'un voyage à La Rochelle où j'ai sans doute un petit peu attrapé froid. Et je vais également vous faire juste une petite histoire du Roger Sound, qui est donc le bateau en question. Sa construction, elle s'est faite en Allemagne de 1995 à 1999.
Elle a servi de projet collectif à des étudiants qui sont spécialisés en menuiserie, soudure, ingénierie, architecture, mécanique. C'est un ketch. Un ketch, c'est un type de bateau qui est doté de deux mâts et de quatre voiles. Son fond plat est constitué d'une plaque d'acier qui est taillée dans un ancien sous-marin allemand. Il navigue de mai à octobre au pays. Sa double mission, il est conçu pour faire de l'éducation environnementale auprès d'une population de tous les âges et pour offrir des stages axés sur la consolidation d'équipes et le développement des aptitudes sociales, de leadership et de responsabilité individuelle. Le souhait d'Écomarie, donc l'organisme environnemental, c'est redonner à la population un accès au fleuve grâce au Roto Sand. Roto Sand qui veut dire sable rouge et qui est donc arrivé au Québec en juillet 2012. Voilà, vous pouvez trouver l'information sur ecomaris.org. Alors voici, on embarque. Le voilier a beau faire une bonne vingtaine de mètres de longueur, Fanny Charland-Asselin ne s'est pas laissée intimider pour autant. Du haut de ses 19 ans, et en dépit de son inexpérience, elle tient la barre et longe la côte de Rimouski, en prenant un bouquet d'éoliennes pour opère. Jupe au vent, elle dirige avec une étonnante assurance le navire qui sera sa maison pour les 5 prochains jours. Fanny est heureuse de tourner le dos à la routine de sa vie montréalaise. La première officière, qui est Ariane Tessier-Moreau, la guide en lui conseillant d'éviter les mouvements brusques. « Un bon barreur, c'est un barreur paresseux », lui dit-elle. Après tout, les stagiaires comme Fanny doivent préserver leurs énergies pour les autres besoins du navire-école. Déploiement des voiles, calcul de positionnement sur une carte, travaux d'entretien, cuisine et aussi corvée de ménage. À bord du Roto Sand, les jeunes sont soumis à des cartes de navigation, de jour comme de nuit. Dès les premières heures de la traversée qui les mènera jusqu'en Nouvelle-Écosse, Fanny sait qu'elle ne sera pas du même quart qu'Annie, qui est sa jumelle et qui est aussi du voyage. Son défi, apprendre à vivre en communauté avec une quinzaine d'inconnus, n'en sera que plus grand. Une nouvelle chance, donc. Inséparables, Annie et Fanny Charland-Asselin ont quitté pour une rare fois le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons perdu notre père à l'âge de 7 ans et avons failli être envoyés en famille d'accueil, comme notre frère, mais notre mère s'est heureusement reprise en main, nous dit-elle. Ils sont quatre de ce coin de la ville à bénéficier d'une bourse de port de Montréal pour faire un stage initiation au métier de la mer à bord du ketch d'Écomaris. Après le premier souper, alors que le fleuve continue de s'élargir à la hauteur de la Gaspésie, les jumelles s'isolent sur le pont et se mettent à pianoter sur leur téléphone. Ariane, qui est responsable de la formation à bord, leur demande de tout éteindre. Vous allez découvrir qu'on vit très bien sans technologie, leur dit-elle. À mi-chemin entre le camp de vacances et le stage professionnel, l'aventure demande aux participants de lâcher prise. Oubliez les bidules électroniques, mais aussi leur parcours scolaire incertain. Fanny et Annie viennent d'abandonner leur cours à l'éducation aux adultes, faute d'argent pour payer les manuels. Mais elles n'en démordent pas. Un jour, elles termineront leurs études secondaires. D'autres stagiaires réussissent mieux à l'école, mais qu'importe. Le fondateur d'Écomarie, Simon Paquin, veut aider ces jeunes à prendre du recul par rapport à l'influence de leur famille, de leurs amis et de Facebook. La mer est un milieu très stimulant, nous dit-il, et le but du voyage est d'éveiller un intérêt, quel qu'il soit. Un bateau, c'est une encyclopédie vivante, dans laquelle on peut piger les connaissances dont on a besoin, soutient le marin, pour qui le terme « décrocheur », entre guillemets, dit-il, qu'il rejette, nie aux jeunes le droit à la différence. Larguer les amarres, Tommy Prouroy en avait bien besoin. Lui, il est stigmatisé par son handicap auditif. Le jeune homme de 16 ans subit de l'intimidation à l'école. Lui qui n'avait pas fait de bateau depuis l'âge de 4 ans se sent tout de suite accepté quand il annonce au groupe qu'il est malentendant. « Enfin, quelqu'un qui me comprend !» s'exclame le capitaine Lancelot Tremblay, qui est dur de la feuille à l'aube de la cinquantaine. S'ensuit un éclat de rire général. Tommy connaîtra beaucoup d'autres moments de complicité comme celui-là. En mer, chaque journée est différente. La météo dicte l'horaire et amène les apprentis matelots à révéler le meilleur d'eux-mêmes, nous rappelle l'auteur. L'adolescent a trouvé sa place en cuisine, où le chef lui apprend, entre autres rudiments, comment déglacer une sauce. Quand je fais une erreur, Jean-Baptiste ne me chicane pas. Au contraire, il m'encourage et m'explique pourquoi on ne doit pas faire cela. C'est ça le travail d'équipe, dit le jeune homme. Cuisine, mécanique, biologie, navigation, géographie, l'éventail est vaste. On ne s'en dit pas à bord d'un bateau, mais Tommy apprécie en particulier les repas en groupe autour de la grande table en bois, qui lui permettent, me rappelle-t-il, de développer ses habiletés sociales. « En ville, je suis solitaire, ça me fait du bien sur le bateau d'être entouré de gens sympathiques », dit le jeune homme. Lors d'un arrêt à Rivière-Renard, en Gaspésie, il savoure sa première soupe au maquereau, avec du poisson pêché 2 heures plus tôt par ses amis moussaillons. Et Alexandra Vio nous continue son reportage en nous rappelant que faire face ensemble, c'est aussi être à la barre tout le monde. C'est Annie qui est donc à la barre au moment où on aperçoit les vagues moutonnées au large des falaises escarpées du parc national de Forillon. Le voilier a à peine pénétré dans le golfe du Saint-Laurent que le reste de la bande, y compris sa sœur, a le mal de mer. Les apprentis aimeraient être dans un jeu vidéo et appuyer sur pause. Mais il n'y a aucune échappatoire possible. Sinon de regarder les majestueuses baleines à bosse qui sautent vers le ciel. En mer, les épreuves rapprochent les gens. Ils vantent, tout le monde est malade, c'est le bordel en dedans, mais les jeunes vont survivre et découvrir la solidarité. Affronter la mer forge la confiance et donne l'impression d'être capable de réaliser de grandes choses, dit la première officière. Personne ne sera indemne d'un séjour sur Watersound. Accomplir un effort donne de la fierté, croit Simon Paquin, bien conscient que des ados comme Tommy doivent en fournir beaucoup pour s'adapter à la vie au bord. Quand il arrive à destination en Nouvelle-Écosse, Tommy sent déjà qu'il a changé. À Montréal, je suis maladroit. J'oublie mes affaires et je pense à autre chose. Je sais maintenant que je dois faire comme sur le bateau et rester concentré sur mes tâches. Au-delà des apprentissages, tirer la traversée, il aura aussi appris à trouver son équilibre, même à terre.
Alors, nous sommes allés du côté terre avec Louise et du côté mer avec Christine. La deuxième partie, ce sera alimentation, les mots à ne pas dire, tout sur le tofu. Et je vous réserve une petite surprise. Hein. Il y a Louise qui a un sujet assez inusité, mais ça, c'est pour la prochaine demi-heure. Alors, on se retrouve. Je suis sûre que vous avez dû vous faire dire ces phrases dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, le titre de l'article, c'est « Alimentation, les mots à ne pas dire » et c'était rédigé par les nutritionnistes d'Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Alors, vous savez, tous les parents désirent inculquer de bonnes habitudes alimentaires à leurs enfants. Pour y arriver, ils utilisent diverses tactiques et ce, avec les meilleures intentions du monde. Et si ces pratiques avaient l'effet contraire, justement? Bien que ces stratégies procurent souvent l'effet escompté dans les médias, elles peuvent aussi influencer négativement le choix alimentaire des enfants, leurs préférences, ainsi que leur capacité à reconnaître et à respecter leurs signaux de la faim. Écoutez bien la première phrase. « Pas de croustilles, c'est mauvais pour la santé ». L'offre alimentaire foisonne d'aliments attrayants et peu nutritifs. En réponse à cet environnement obésogène, certains parents sont tentés de bannir totalement certains aliments Kaamelott. Ces fruits défendus, les croustilles, deviennent alors bien plus attirants que les aliments permis. Et lorsque les aliments interdits sont enfin disponibles, les enfants risquent fort d'en consommer au-delà de leur faim. En plus, ce discours encourage les enfants à catégoriser les aliments en bons ou en mauvais aliments. Or, aucun aliment n'a le pouvoir de garantir la santé, imaginez pas même la salade. Tout est une question d'équilibre, de dose et de fréquence. Deuxième phrase qu'on entend pas souvent, si tu ne manges pas ton brocoli, le fameux brocoli, tu n'auras pas de dessert. Tout parent aimerait voir son enfant dévorer son brocoli. Vous aussi, je suis sûre. Mais associer un aliment à une punition, Tu n'auras pas de dessert, par exemple, n'est certainement pas la meilleure façon d'influencer positivement la perception de l'enfant vis-à-vis ce type d'aliment. Et du même coup, ce type de remarque présente le dessert comme la récompense suprême, ce qui ne fait qu'alimenter le désir de l'enfant pour les douceurs sucrées. Seul on l'a entendu. Finis ton assiette! La reconnaissance des signaux de la faim joue un rôle important dans le maintien d'un poids santé. En se voyant obligé de continuer à manger alors qu'il n'a plus faim, l'enfant apprend à ne plus se fier aux signaux de satiété envoyés par son corps. Résultat, dans des situations où les aliments sont facilement disponibles, l'enfant aura tendance à manger davantage, même s'il n'a pas faim, un comportement qui augmente les risques de développer un surpoids. Et ne mange pas trop de gâteaux. Voyons donc, ça fait engraisser. Certains commentaires mettant en relation les aliments et l'image corporelle peuvent faire naître chez l'enfant une relation malsaine avec certains aliments et avec son corps. Le gâteau est vu comme un aliment défendu, attirant, mais aussi culpabilisant. Sa consommation satisfait son appétit, mais le rend également honteux d'avoir dérogé à une norme familiale. Alors, pour aider votre enfant à développer de bonnes habitudes alimentaires, il faut lui donner de bons exemples en savourant des aliments nutritifs variés, en mangeant lentement et en cessant de manger lorsque vous êtes rassasié. Il faut aussi prôner le plaisir de déguster et de découvrir les aliments plutôt que les interdits. À table, vous pouvez lui offrir une variété d'aliments nutritifs et laissez-le décider de la quantité qu'il veut. Et assurez-vous que votre enfant dort suffisamment, car la fatigue peut biaiser ses signaux de faim et de satiété. Ce dont on se souvient le plus souvent, eh bien, c'est d'éviter justement de présenter le dessert et les grignotines comme des interdits en offrant la possibilité à votre enfant d'en manger de temps à autre. Évitez, le mot éviter revient souvent ici, évitez de parler des aliments comme étant bons ou mauvais. Évitez d'utiliser les aliments pour récompenser ou punir votre enfant. Et évitez de transposer vos propres préoccupations à l'égard de votre poids ou de votre image corporelle sur vos enfants en évitant tout commentaire portant sur l'apparence. Alors, ce sont peut-être des phrases que vous avez entendues dans votre propre enfance, que vous transmettez peut-être à vos enfants, et peut-être qu'il y a des mots que vous allez maintenant cesser d'utiliser.
Alors, merci, Daniel, pour cet article intéressant. Je m'attendais à ce qu'il y ait une remarque sur « Finis ton assiette en Afrique, ils ne peuvent pas manger ». Il me semble qu'on a tellement entendu ça quand on était plus jeune.
Oui, ça, c'est vrai, oui. Mais de nos jours, je me demande si les enfants savouraient l'Afrique des fois. Mais
disons que je n'ai jamais trouvé la logique de cette...
Non, il n'y avait pas de logique. Il y avait juste une consigne.
Alors, après avoir parlé des mots à ne pas dire, on va parler d'un petit sujet tabou. En fait, c'est les muscles pelviens. Jouer à un jeu vidéo avec son vagin. c'est quelque chose qui est apparu dans la Presse Plus du 3 juillet, qui a été rédigé par Nadiel Couteloup. Alors, jouer à un jeu vidéo sans fil sur son téléphone en contractant ses muscles pelviens, c'est ce que permettrait le SKEA, Smart Kegel Exercise Aid, un petit objet qui ressemble à un vibromasseur design lancé au début de l'année par l'entreprise chinoise LinkCube Studio, mais qui doit encore être mis au point, tout comme son application mobile. Son fondateur, Tom Chen, physicien chinois et concepteur de jeux vidéo, en a eu l'idée quand sa femme a vécu des problèmes d'incontinence après son accouchement. Son but, encourager les femmes à exercer leurs muscles pelviens qui entourent le vagin, l'urètre et l'anorectum de façon amusante. Le principe, on insère l'objet comme un tampon et quand on contracte les muscles pelviens, l'avatar saute, évite les obstacles, etc. Donc, on contrôle le monde avec notre vagin. Quand la contraction est faite correctement, le skea se met à vibrer, telle une récompense. Son prix à partir de 85 US, 105 canadiens. Pourquoi exercer les muscles pelviens? Les muscles du plancher pelvien, c'est une phrase qui est dure à dire, plancher pelvien, soutiennent nos organes, utérus, vagin, vessie, rectum, nous empêchent d'avoir des fuites d'urine ou de sel, nous aident à avoir des sensations lors des relations sexuelles et favorisent une bonne posture. Plus ils sont en forme, mieux ils vont performer, explique Louise Perrin, physiothérapeute en rééducation périnéale et pionnière dans le domaine au Québec. Elle rappelle qu'on s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte. Si je me lève, ça contracte. Si je parle fort, ça contracte. Mais on tient ses muscles pour acquis quand tout va bien, car ils fonctionnent de façon automatique. Louise Perrin, physiothérapeute en rééducation périnéale. Louise Perrin ne considère pas que des gadgets comme le skea ou autres boules chinoises sont nécessaires pour travailler les muscles pelviens. D'ailleurs, chaque personne devrait suivre des exercices adaptés à sa condition, estime-t-elle, comme au gym. Il ne suffit pas de serrer et de relâcher. Il y a un nombre de répétitions et une qualité des contractions qui sont importantes. Sans oublier qu'il faut faire l'exercice correctement, prévient-elle. Tabou, douleurs sexuelles et incontinence. Mais ces gadgets ont tout de même un avantage. Ils permettent de sortir les muscles pelviens du garde-robe. Plus les gens sont sensibilisés, mieux c'est. De plus en plus, on en parle dans les cours de yoga, d'aquaform, de pilates. Avant, quand j'en parlais, j'étais comme une martienne avec des antennes vertes. Aujourd'hui, c'est mieux. Avant, on était plus dans le curatif. Aujourd'hui, il y a un peu plus de préventif, souligne-t-elle. N'empêche que le tabou persiste encore et rares sont les soupers où on parlera d'incontinence ou de douleurs sexuelles. Ça se prête un peu moins, quand même. Dans sa clinique, Louise Perrin voit des femmes aux prises avec de l'incontinence qui viennent d'accoucher, qui ont eu une déchirure du périnée, qui sont enceintes et veulent faire de la prévention, mais aussi de jeunes femmes qui ont des douleurs lors des rapports sexuels. Ces dernières représentent la moitié de la clientèle, dit-elle. Comment faire les exercices? Madame Perrin donne quelques trucs. Le stop pipi. En urinant, on contracte son plancher pelvien pour stopper son jet d'urine. Cet exercice permet de savoir si on est capable de contracter les bons muscles. Attention, ce n'est pas un exercice qui permet de travailler les muscles pelviens ou qui est préventif. Une image. On s'imagine qu'on attrape un bleuet avec la vulve et qu'on le fait monter dans le vagin. On peut faire l'exercice durant quelques secondes et le répéter deux fois dans la journée. Les erreurs. Il ne faut pas bloquer sa respiration, pousser, contracter le ventre ou serrer les fesses. Si on fait les exercices dans le métro, personne ne devrait s'en rendre compte. Diversifier. Une fois qu'on maîtrise la technique, on peut changer de position. Allongée, assise, debout, un pied sur un petit banc, en parlant, etc. Ou encore multiplier les répétitions. En clinique. Si on n'est pas certaine des exercices à faire, on prend rendez-vous avec une physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Il n'est jamais trop tard pour consulter, même si on a plus de 70 ans. Ça, je trouve ça étonnant quand même. Je trouve ça vraiment le fun. Plaisir sexuel. Pour celles qui ont des douleurs lors des relations sexuelles, on peut aider beaucoup de femmes, mais souvent, c'est lié à un problème de tension, souligne Louise Perrin. Pour diverses raisons, souvent les muscles pelviens ne sont pas assez relâchés lors de la relation sexuelle. La femme sera moins lubrifiée, la pénétration sera difficile. Résultat, on entre dans un cercle vicieux. La femme aura moins envie d'avoir des relations sexuelles parce que ça lui fait mal, ajoute Mme Perrin. Peut-on atteindre plus facilement l'orgasme en musclant son plancher pelvien? Pas forcément. Une femme pourrait avoir un plancher pelvien qui n'est pas très musclé, mais avoir une sexualité épanouie. Tout comme une autre pourrait avoir le sien très musclé, mais considérer qu'elle n'est pas épanouie sexuellement, répond la sexologue Sophie Morin. Car le plaisir sexuel n'est pas tant lié aux muscles pelviens qu'à la connaissance de son corps, entre autres. Prendre conscience et maîtriser ses muscles pelviens est une des façons de mieux connaître son corps. En chiffres, de 15 à 20 proportion de femmes qui éprouvent des douleurs lors des relations sexuelles. 40 proportion de femmes qui, parmi celles qui font des exercices pelviens en se fiant à ce qu'elles ont lu ou entendu, ne les font pas correctement. 70 proportion des problèmes d'incontinence qui sont réglés lorsque les exercices sont bien faits, peu importe l'âge. 50 % proportion de femmes qui souffrent d'incontinence durant leur grossesse.
Segunda-feira, descendo uma ladeira, na praia, na esteira, com barulho de motor em fevereiro. Debaixo do chuveiro, de chapéu de cangaceiro, de jaleco de doutor, na primavera, na frente da galera, na jaula de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Desfilando quase nua, numa lada beija-flor, no chão, na cama, de fraque de pijama, no deserto do Atacama, numa pilha de isopor, de qualquer jeito, a torto ou a direito, pra ninguém botar defeito, mas com todo meu ardor, o que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue seu amor.
Christine de nouveau au micro avec un article paru dans Saveur de printemps 2015. C'est un texte de Dominique Lesbros. Tout savoir sur le tofu, une autre invention chinoise qui, celle-ci, est plus ancestrale, si je peux dire, mais qui, pour elle, pour tout autant, a également des vertus inestimées ou inestimables. Oubliez vos préjugés et laissez-vous donc séduire par la polyvalence de cette curieuse pâte blanche. Élément omniprésent de l'alimentation asiatique, le tofu a fait son trou en Occident par le biais de la cuisine végétarienne. Il s'invite peu à peu dans les recettes, mais toujours discret, comme une carpe. On est loin de l'usage intensif qu'en font les Chinois, qui s'en régalent à tous les repas, donc nous voilà de nouveau avec les Chinois, y compris sous la forme de tofu grillé au petit déjeuner. Il puise dans cet aliment une dose de protéines d'excellente qualité, moins riche en graisse que les protéines animales. Les personnes surveillant leur taux de cholestérol ont tout intérêt à l'adopter, en effet 0 mg de cholestérol. Les Occidentaux, sensibles à cet argument santé, peinent néanmoins à apprivoiser le tofu sur le plan culinaire. Tofu à tout faire. Il faut bien reconnaître que cette pâte blanche, molle et quelque peu gélatineuse, a de quoi laisser perplexe. À son aspect peu engageant s'ajoute une fadeur déconcertante. Là réside le principal atout du tofu. Son goût neutre en fait un véritable caméléon. Grâce à sa texture poreuse, il absorbe comme une éponge la saveur des ingrédients avec lesquels on le fait mariner ou cuire. Découpé en cubes et mêlé à une poêlée de légumes, une tagine ou un curry, il apporte un fondant délicieux. Pour une initiation, préférez le tofu fumé, moins humide que le tofu basique. Sa consistance et son goût sont assez proches d'une saucisse cocktail. Il peut facilement remplacer les lardons dans une quiche ou une omelette. Le tofu frit, ça aussi c'est pas mal dur à dire, hein? Croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur est un régal. Coupé en dés, il agrémente en toute légèreté une salade. Donc on est vraiment dans la période estivale, c'est idéal. Il peut également être réduit en miettes et associé à une mousse de légumes. Autre déclinaison à découvrir, le tofu soyeux, dont la consistance s'aventure entre le flan et le yaourt. Il possède, lui, un goût de soja bien affirmé et remplace la crème fraîche dans les desserts, donc le tiramisu, les crèmes, les mousses, les tofu shakes, qu'il rend léger et onctueux à souhait. Ferme, fumé ou soyeux, le tofu se révèle un parfait compromis entre plaisir et équilibre. Alors, le tofu, petite carte d'identité. Après ces quelques pas de tango, nous voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte blanche, donc souple, obtenue à partir de haricots de soja broyés. En fait, pour dire les choses exactement, c'est un aliment d'origine chinoise, bien sûr, tout le monde le sait, mais qui est issu du caillage du lait de soja. Le tofu est appelé fromage de soja, donc, car son mode de fabrication est similaire à celui de nos fromages laitiers. Comment le choisit-on? En fait, il faut préférer un tofu bio et frais, plus goûteux et peu chargé en conservateurs. Vous le trouvez dans les boutiques bio, dans les aliments naturels, etc. Et même certains rayons de nos grandes alimentations. Quel goût a-t-il? Aucun, bien sûr, et c'est précisément son atout majeur. On lui donne le goût que l'on veut en le faisant mariner dans le condiment de son choix. Gingembre, frais râpé, vinaigrette, pesto, moutarde, etc. Comment le cuisiner? Le tofu est vendu sous forme de blocs rectangulaires afin d'être facilement débité en cubes ou en tranches. Avant utilisation, enveloppez-le dans un torchon ou dans du papier absorbant, placez-le entre deux assiettes avec un poids dessus et laissez-le s'égoutter pendant 2 heures. Ensuite, vous pouvez le faire sauter à la poêle, le passer au four ou au cuit-vapeur. Doit-on le faire cuire? C'est là la question. Le tofu ne se cuit pas à proprement parler, mais il se réchauffe et se raffermit sous l'effet de la chaleur. Le tofu peut aussi, si l'on veut, se manger tel quel, froid, c'est une affaire de goût. Enfin, je vais conclure avec un petit rappel de quelques chiffres et de recettes. Je dirais que le tofu cru, c'est 70 calories pour 100 grammes. C'est riche en calcium, 350 mg, en fer, en potassium, 121 mg, en protéines, les sportifs l'adorent, enfin de plus en plus d'ailleurs, et qu'ensuite, l'été est propice à essayer des recettes tofu. Alors, j'ai retenu pour les gourmands du tofu grillé à la sauce barbecue en 15 minutes, la mayonnaise sans œufs, du tofu curry, des bouchées au tofu et concombre. Je ne veux pas trop faire de publicité, mais vous pouvez trouver ça sur ricardocuisine.com. Ou aussi, pour les familles, des frites de tofu en 10 minutes. Vous pouvez trouver la recette sur cuisinefutéeparentpressé.telequebec.tv recettes. Des brochettes de tofu à la jamaïcaine sur le site de coupdepouce.com dans les recettes idées cuisine. Et enfin, pour le dessert, je vous servirai des brownies santé au tofu. Et vous pouvez trouver la recette sur recettes.qc.ca dans la thématique Top 10 tofu.
Alors, ça serait le temps de conclure cette émission avec quelques brèves. Donc, c'est Louise au micro. Souvent non diagnostiqué. Saviez-vous qu'en tant qu'adulte, on peut voir apparaître des boutons au visage qui ressemblent à de l'acné, mais qui n'en est pas? On croyait qu'avec le vieillissement, on serait débarrassé de l'acné, mais non. C'est ce qu'on appelle de la rosacée. Près de 2 millions de Canadiens en souffrent. La rosacée est une maladie chronique de la peau qui affecte principalement le visage, malheureusement. Elle se manifeste généralement chez les adultes âgés de 30 à 50 ans et est trois fois plus fréquente chez les femmes. À noter que les personnes qui ont une peau claire, d'ascendance irlandaise, écossaise ou anglaise, sont plus prédisposées à ce problème. On ne connaît pas les causes exactes de la rosacée, mais certains facteurs la déclenchent ou l'aggravent. Température extrême, chaude ou froide, exposition au soleil, stress, bain chaud ou sauna, certains produits pour les soins de la peau, aliments épicés, alcool, vin rouge. Aïe, aïe, aïe. On voit ici mon petit penchant. Non. Boissons et aliments très chauds. Symptômes. Les symptômes peuvent varier de légers à graves. Rougeur sur les joues, le nez, le front et le menton, qui deviennent progressivement persistantes et plus visibles. C'est comme si vous aviez un coup de soleil qui perdure. S'ajoute une sensation de brûlure ou de démangeaison, une irritation oculaire, des bosses ressemblant à des boutons, mais sans points noirs, et l'apparition de vaisseaux sanguins dilatés, qui sont aussi nommés couperoses, qui forment plusieurs lignes rouges à la surface de la peau. Plus rarement, il y a aggravation de ces symptômes avec épaississement de la peau du nez qui devient enflée, rouge et bosselée. C'est le rhinophyma. Cette forme plus grave de la rosacée survient surtout lorsque la maladie n'a pas été traitée et apparaît plus souvent chez les hommes. Des traitements? Même s'il n'y a pas de traitement définitif, il est possible de diminuer les symptômes en ayant de bonnes habitudes de vie et en utilisant des traitements appropriés. La première étape est la prévention. Ainsi, il est important de faire un journal personnel pour noter les facteurs aggravants, ce qui va vous permettre de les éviter. On recommande de faire un nettoyage quotidien de la peau avec de l'eau fraîche et d'opter pour des produits qui ne sont pas asséchants, sans alcool ou astringents. Ne pas oublier de garder la peau bien hydratée, surtout durant la saison froide, lorsque l'air est sec. L'utilisation d'un écran solaire contre les UVA et UVB avec un FPS de 30 et plus est conseillée. Au niveau des traitements médicamenteux, le choix va se faire en fonction du degré de gravité de la rosacée, médicaments topiques, gel, crème, lotion, antibiotiques oraux, traitement au laser.
Avec les beaux jours et la canicule qui arrive, j'envie pas ceux qui se marient, mais il y en a qui vont se marier. Alors, je leur souhaite bonne chance, mais aussi, il y a des femmes, on se demande quelles sont les qualités que vous recherchez de votre futur époux. Alors, tout d'abord, on dit dans le site Elite Daily, qui en a répertorié 5, tout d'abord que votre futur époux soit votre meilleur ami. Alors, c'est pourquoi avoir un compagnon qui s'avère être également votre meilleur ami est le meilleur scénario qui puisse vous arriver, et je vous le souhaite. Deuxièmement, il est votre famille, parce qu'on sait bien que la famille, c'est important. Alors, la famille que vous allez agrandir avec des enfants, éventuellement, peut-être. Il est la personne en qui vous avez le plus confiance, parce que la confiance dans un couple, c'est vraiment primordial. Il va donner un sens à votre vie. Alors, qu'on le veuille ou non, l'amour donne un sens à notre vie. C'est pourquoi nous avons tous besoin d'amour, surtout si c'est la bonne personne. Aimer et partager sa vie avec quelqu'un ne rend pas forcément le monde meilleur. On a juste regardé les actualités, mais est définitivement plus beau. Et il va aussi être celui qui, avec qui vous allez créer des souvenirs et prendre des belles photos. Et rêvez jusqu'à la fin de vos jours. Ah! Alors, on y va, on continue avec la farniente, la paresse. Pourquoi pas, c'est l'été, la chaleur aussi. Alors, inscrivez ça sur une liste. Il faut décider qu'on veut en faire moins, tout d'abord. Vous n'êtes pas indispensable, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, une chose qu'on doit renoncer, c'est d'essayer de tout suivre, tout ce qui se passe sur Facebook, tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, les dernières aventures à Hollywood. Prendre une belle congé, prendre une belle journée de congé pour soi durant l'été. Inventer un défi familial durant l'été avec les enfants, faire le ménage en gang, en groupe. Et une autre façon de la farniente, c'est de vendre son fer à repasser sur Kijiji, pourquoi pas? Parce qu'on a des fois des vêtements qui sont froissables. Alors, on prend une journée de beau vent et on met ça sur la corde et puis ça fait le repassage. Ne rien acheter. Apprendre à décevoir. Ah, débrancher la télé pour l'été. Et puis, ne pas répondre à un courriel, ça doit faire du bien. Et instaurer un souper hebdomadaire avec des amis ou avec la famille, avec ceux qu'on aime. Voilà, la farniente.
Alors, c'est la fin d'une autre émission de Kiosque Magazine à Radio M. Merci à Mathieu Tessier à la technique. Merci à Christine et Daniel à l'animation en ma compagnie. Nous sommes en reprise à 13h et 21h. Pour avoir accès à toutes les émissions, allez à canalm.org. Pour faire vos commentaires, écrivez à canalm@vuesetvoix.com. À la semaine prochaine. Bonne journée.